Capi.
O Capi. Le gouvernement Mouzito a été investi tard dans la soirée à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Les députés expriment cependant le souhait de voir ce nouvel exécutif national plus actif et plus entreprenant que Gizenga 1 et 2. Des hauts responsables américains et européens se déploient dans la région. Objectif, venir à bout de la crise dans l'est de la RDC. En province orientale, cri d'alarme des exploitants artisanaux de Ouatcha. Ils se déclarent victimes des tracasseries militaires des FARDC. Okapi, Okapi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, les débats sur le programme d'action du gouvernement se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. En gros, les exposés des députés ont tourné autour des problèmes sécuritaires et socio-économiques. Les groupes parlementaires ont mis en exergue les lacunes de ce programme avant de faire de recommandations. Le vote du programme gouvernemental est intervenu à une majorité absolue. Le point avec Marie-Chantal Lumba.
C'est vers minuit 30 que le président de l'Assemblée nationale a proclamé les résultats de ce vote. En moins de 48 heures de travail, les députés nationaux ont épuisé la procédure d'investiture qui normalement prend une semaine. Une urgence, selon l'Assemblée nationale, suite à la dégradation de la situation de guerre au Nord Kivu et l'aggravation de la crise socio-économique et sécuritaire dans le reste du pays. Les priorités du programme d'action du gouvernement Mouzito s'axent sur la refondation de l'État, la consolidation de la paix et de l'unité nationale, la reconstruction du pays et l'amélioration des conditions sociales des populations. Ce programme a comme stratégie la bonne gouvernance. Toutefois, le Premier ministre Mouzito reconnaît que son gouvernement est la continuité du gouvernement et du plan d'action de Gizenga 1 et 2. À ce sujet, les députés nationaux espèrent que ce nouvel exécutif sera plus actif et plus entreprenant que son prédécesseur. Palais de Peuple, Marie-Chantal Lumba, Radio Capi.
À l'issue de la plénière d'hier soir, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu sur les principaux axes de la mission gouvernementale d'Adolphe Mouzitu. Je vous propose d'écouter Vital Kamerhe dans ce propos recueilli par Emmanuel Imbanda. Le président de l'Assemblée nationale espère voir le gouvernement répondre aux aspirations populaires.
Par cet acte de haute portée historique, je suis convaincu que nous avons accompli une obligation importante en donnant au gouvernement la qualité de poser les actes au nom et pour le compte de l'État. Par ailleurs, par ce même acte, le gouvernement va prendre ses responsabilités, notamment de faire aboutir les aspirations de notre peuple qui passent par la réalisation de la paix, du bien-être et du développement.
Les initiatives diplomatiques pour tenter de ramener le calme à l'est de la République démocratique du Congo se multiplient. Le point avec vous, Emmanuel Imbanda.
Hier, des hauts responsables américains et européens se sont rendus auprès du président rwandais. Paul Kagame a reçu le ministre belge des Affaires étrangères, puis la secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires africaines, et enfin, dans la soirée, les ministres français et britanniques des Affaires étrangères. Les deux ministres européens ont discuté avec le chef de l'État rwandais, entre autres d'une future rencontre entre le président Kagame et son homologue congolais Joseph Kabila. À l'issue de la rencontre, les deux ministres se sont envolés pour Dar es Salaam pour des entretiens avec le président tanzanien Jakaya Kikwete, actuel président en exercice de l'Union africaine. La secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, elle, a insisté auprès du président rwandais sur l'importance d'une rencontre avec son homologue congolais. La responsable américaine a admis qu'il n'y avait pas de preuve que le Rwanda soutenait Laurent Kunda, mais a cependant affirmé que le Rwanda avait soutenu le rebelle par le passé. Par ailleurs, le premier ministre britannique a déclaré hier à la presse en Arabie Saoudite que la communauté internationale ne doit pas permettre que la RDC devienne un nouveau Rwanda.
Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, et son homologue britannique, David Miliband, ont achevé hier après-midi une courte visite à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À peine arrivés, les deux délégations qu'accompagnait l'ambassadeur Alain Dos se sont rendues dans un camp de déplacés de Kibati situé à environ 7 km au nord de Goma. L'objet de la visite était de s'enquérir des garanties sécuritaires, mais aussi d'évaluer le besoin urgent des milliers de familles déplacées avant d'envisager une quelconque assistance. Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, est au micro de Gabriel Ouaménia.
Alors on a écouté quels sont les besoins dans ce camp et ailleurs. Nous avons écouté quels sont les besoins, évidemment, criants dans le Nord Kivu, pour au moins 1 million de personnes. La sécurisation parce que la distribution de l'aide ne peut pas se faire et que les chemins sont bloqués. Et il faut donc qu'il y ait une sécurisation et puis aussi peut-être une distribution plus rapide, comme le dit notre ami du HCR, par l'aéroport. De tout ça, nous allons parler. David Miliband et moi, c'est-à-dire pour la première fois, le anglais et le français ensemble. Nous allons rapporter demain lundi, à nos collègues de l'Union européenne et nous allons essayer de les convaincre qu'une aide nouvelle doit être apportée.
Justice à présent. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo demande un procès équitable qui se tienne dans les meilleurs délais. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à Radio Okapi l'un de ses avocats. Maître Aimé Kilolo réagissait au sujet de la date de l'audience de confirmation des charges prévues pour le 8 décembre prochain. C'est là après plusieurs reports. Aimé Kilolo dénonce aussi le fait que le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, prend trop de temps pour introduire les éléments de preuve dans le dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba, alors que la plainte est sur sa table depuis plus de 2 ans. Je vous propose de l'écouter, il est joint depuis Bruxelles par Axel Goncho.
Nous sommes consternés aujourd'hui de constater qu'alors que c'est depuis 2006 que la Cour de cassation de la République centrafricaine a transmis le dossier à la CPI et qu'à ce jour, à plus de 2 ans, nous n'ayons toujours pas tous les éléments de preuve dont le procureur entend se fonder pour justifier l'accusation portée contre M. Bemba. Et donc tout ceci nous conforte évidemment dans notre sérénité et à l'idée que M. Bemba pourrait être acquitté. M. Bemba ne demande qu'une seule chose, c'est une procédure équitable, mais surtout la célérité dans la procédure pour lui permettre très rapidement d'être blanchi par rapport à ses accusations. Et donc il est aujourd'hui demandeur d'un procès qui se tienne dans les meilleurs délais.
Situation alimentaire très préoccupante au Kasaï-Oriental. Selon la coordination provinciale du DCRP, la pénurie alimentaire guette à grande échelle le Kasaï-Oriental. Le niveau du stock des aliments approche de 0. Ce rapport a été révélé ce samedi après-midi au cours de la journée de réflexion organisée par la section provinciale de l'Union des consommateurs du Congo en collaboration avec l'ONG Cause Commune. Les travaux ont porté essentiellement sur l'évolution des prix des denrées alimentaires sur les marchés de Mbujimayi. On écoute le coordonnateur adjoint du DCRP Kasaï-Oriental, Omer Kamanga. Ses propos ont été recueillis par Chris Mukande.
Pour accéder à la sécurité alimentaire, non seulement on doit produire ses propres denrées alimentaires, mais ceux qui ne produisent pas peuvent aussi en acheter. Mais aujourd'hui, le stock alimentaire approche de 0. Et le pouvoir d'achat de la population est trop bas. Pour manger, on est incapable de dépenser 1 $ par personne et par jour. Vous comprenez que la situation n'est pas si facile, puisque si on a une famille de 10 personnes, pour toute une année, il faut mobiliser 3 650 $ uniquement pour pouvoir prendre un repas. C'est énorme. Donc la situation est alarmante. Il faut que tout le monde participe à la production agricole. Tout le monde aille vraiment pour produire en milieu rural.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
C'est avec vous, Axel Goncho. D'abord, le Nord Katanga, où 7 maisons, dont le bureau de la police nationale, le dépôt du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les toits de l'Institut Tchengelo ont été emportés hier soir à Pueto.
C'est la conséquence des dégâts matériels enregistrés une heure après une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la région à 450 km au sud des Kalemi. La pluie n'a pas fait des victimes humaines, précise Sangobin Sempe, journaliste de la radio communautaire émettant des Pueto.
En province orientale, les exploitants artisanaux d'or du territoire de Ouatcha, à plus de 800 km au nord-est de Kisangani, se plaignent des tracasseries militaires dont ils sont victimes de la part des militaires FRDC.
Selon ces orpailleurs, les militaires exigent d'eux de l'argent à titre des rations militaires et des contributions à l'effort de guerre. La même source ajoute que cette pratique appliquée pendant la rébellion est revenue en force sans aucune réaction de la part de l'autorité locale. Le point avec André Kitenge.
Ces orpailleurs sont extorqués par des militaires qui seraient venus d'Isiro en partance pour Dungu depuis un mois, affirme un orpailleur que nous avons joint au téléphone. Selon les orpailleurs, ces militaires congolais habillés en tenue de couleur verte passent d'un puits à un autre dans les carrières pour leur demander de l'argent, faute de quoi ils sont fouettés et arrêtés à leur infligeant des amendes. Toujours selon les orpailleurs, les militaires profitent de la situation de la guerre au Nord Kivu et des opérations militaires à Dungu pour justifier leur extorsion au nom de la contribution aux efforts de guerre. Contacté à ce sujet, le commandant FRDC basé à Isiro dit être informé de la situation. Toutefois, il ne connaît pas les unités de provenance de ces militaires qui sèment la terreur dans les carrières d'or à Ouatcha. Le lieutenant-colonel Manix Ucha affirme avoir envoyé certains de ses éléments sur place afin de s'enquérir de la situation et arrêter si besoin les coupables. Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
À l'Équateur, les responsables de l'ONG Centre d'appui au développement des Pygmées, CADEP, se plaignent. Cette ONG qui encadre les Pygmées de 49 villages du territoire de Moncoto, notamment à l'agriculture, à la chasse, mais aussi à l'élevage, ne bénéficie d'aucun appui des partenaires, indiquent leurs responsables.
Avec la création de la réserve de Lomako, ces Pygmées se disent obligés d'abandonner la chasse pour se consacrer uniquement à l'agriculture. Mais là encore, ils déplorent le manque d'outils et de semences. Imbe Nkoko, l'un des responsables du Centre d'appui au développement des Pygmées, a fait le déplacement de Mbandaka à la recherche d'un appui. On l'écoute au micro de Ghislain Nentobo.
Nous avons beaucoup d'enfants, pas moyen de les nourrir parce que notre forêt abrite le parc. Cette situation nous met, nous, encadreurs de ces pygmées, dans l'embarras. En plus, si les pygmées posent un petit problème, ils sont intimidés par les agents de l'ordre. On les fouette et on leur fait payer 5 à 6 chèvres à titre d'amende. On ravit le peu de bêtes que nous élevons d'un côté. De l'autre, l'État nous prive de notre forêt devenue parc. Comment devons-nous vivre? Sommes-nous des humains ou pas? Nous n'avons ni ou ni machette pour faire des champs. À peine quelques machettes avec lesquelles nous travaillons à tour de rôle. Nous nous regroupons pour défricher pendant une semaine le champ d'une personne, puis d'une autre, ainsi de suite. Les femmes viennent par la suite s'aimer. Nous demandons à toute personne de bonne volonté et aux partenaires, comme je suis ici, qu'ils prennent en compte cette doléance des premiers habitants de Moncoto.
Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'Intérieur, Henri Emeignet, dit attendre d'être informé officiellement de cette situation avant de saisir le gouvernement provincial et de demander l'implication de certains partenaires, notamment la FAO.
Tolérance zéro pour tous les fléaux qui rongent à grande échelle la province du Bas-Congo.
C'est le slogan lancé ce samedi lors de la cérémonie de démarrage de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la corruption, la fraude et les tracasseries administratives et judiciaires. Selon le gouverneur de la province qui a procédé à ce lancement, cette commission est une réponse aux différentes plaintes et frustrations de la population. Simon Mbachi Bachia, au micro de Vicky Odia.
Cette commission, elle est une réponse à la nécessité d'apaiser et de protéger la population. Un mécanisme d'appui à l'action de l'exécutif provincial en vue de parvenir à la bonne gouvernance. Toutes les antivaleurs tant décriées sont à bannir à jamais. Le fait que la corruption est un mal qui dépouille les citoyens de ses moyens d'existence et de ses ressources. Que la fraude est un crime qui prive la province des recettes indispensables pour son développement.
À l'étranger, sachez que 3 écoliers ont été tués et 13 autres blessés vendredi dernier par l'explosion accidentelle d'une grenade dans une école du centre du Burundi. C'est ce qu'indique l'AFP. Ces écoliers de l'école primaire Mutoi dans la province de Gitega jouaient avec une grenade que l'un d'eux avait ramassée en chemin alors qu'il se rendait à l'école. Rappelons que le 23 août dernier, 15 personnes avaient été tuées et une cinquantaine d'autres blessées par l'explosion d'une grenade lors des mariages dans les centres du pays. Par ailleurs, en ses jours de travail au Congo-Brazzaville, le président burundais Pierre Nkurunziza a plaidé hier samedi à Pointe-Noire sur l'accentuation de l'éducation pour les populations des Grands Lacs afin qu'elles sachent gérer leurs richesses. Le chef de l'État burundais Nkurunziza est arrivé hier soir à Oyo où il sera reçu par le président Denis Sassou Nguesso de Brazzaville, Arsène Séverin.
Pour bien exploiter les richesses que Dieu a données dans notre région des Grands Lacs, il faut développer et renforcer l'éducation des populations, a dit Pierre Nkurunziza, président du Burundi devant le Parlement du Congo-Brazzaville. En visite de travail à Pointe-Noire, la capitale économique, le président Nkurunziza s'est nourri de l'expérience du port autonome de Pointe-Noire et de l'exploitation des produits gaziers et pétroliers. Notre port sur le lac Tanganyika connaît des difficultés à cause de l'ensablement. L'expérience du port de Pointe-Noire pourra nous aider, a déclaré hier samedi le chef de l'État burundais. Il a plaidé pour un partage d'expérience si les recherches de pétrole en cours au Burundi s'avéraient concluantes. Ce dimanche, Pierre Nkurunziza est à Oyo, à 500 km au nord de Brazzaville, où il a rejoint son homologue Denis Sassou Nguesso. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
Et c'est pratiquement terminé pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Radio Okapi. Ce journal a été coordonné par Lievin Mwinga et Emmanuel Imbanda. Il est 8h15 à Kinshasa. Okapi.